Et le Saint-Esprit ainsi soit-il. Mes bien chers frères et bien chers amis, c'est aujourd'hui la solennité de la fête de Saint-Jeanne d'Arc. Sa fête est en fait le 30 mai, parce qu'elle est morte le 30 mai 1431, elle a vu brûler vive sur la place du marché à Rouen. Mais c'est la tradition en France de solenniser sa fête le deuxième dimanche du mois de mai. Et s'il est une fête qui est importante, c'est bien celle-ci. Pourquoi ? Parce que nous sommes un peu dans la même situation dans laquelle était la France en 1420-1430. Situation politique était à ce moment-là désastreuse. Situation religieuse était aussi bien brillante. Beaucoup de prêtres pratiquaient mal leur sacerdoce. Certes, à l'époque, ils avaient un pape, c'est la grande différence. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes à peu près dans la même situation où, humainement parlant, il n'y a plus de solution. Je pense que tous les catholiques des années 1420 devaient se dire si le bon Dieu lui-même ne s'occupe pas de cette situation, et on ne peut pas s'en sortir. Je pense que c'est un peu la situation actuelle. Humainement parlant, je dis bien humainement parlant, il n'y a pas de solution. La situation incroyable dans l'Église dure depuis maintenant plus de 60 ans. Parlons pas des situations politiques abominables. Situation religieuse à Rome est de pire en pire. Humainement parlant, il n'y a pas de solution. Mais divinement parlant, il y a toujours des solutions. Je pense que c'est ça le grand message de Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Jeanne d'Arc est quelqu'un, si vous voulez, qui a été utilisé par Dieu comme étant un instrument tellement faible, humainement parlant, que tout le monde est obligé de voir Dieu derrière cet instrument. Et on peut vraiment dire qu'on pourra se sortir de la situation actuelle dans l'Église, situation actuelle politique en France, que par l'intervention miraculeuse de quelqu'un du type de Saint-Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que le bon Dieu a dans sa poche pour le garder pour nous, nous ne savons pas. Comment le bon Dieu a prévu de sortir de cette crise, parce que c'est certain qu'un jour on s'en sortira, on ne savons pas. Il faut bien avouer qu'il y a quand même de drôles d'idées. Hein. Aller demander à une jeune fille de 17 ans de se retrouver, d'être à la tête de l'armée française, c'est quand même pas des choses courantes. Non seulement il est allé chercher une jeune fille de 17 ans, imaginez aujourd'hui. Imaginez que le bon Dieu s'en mêle et a demandé à une jeune fille de 17 ans de se mettre à la tête de l'armée française. Même aujourd'hui, ça ne passerait pas. Non seulement ça, mais en plus, il est allé chercher quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, qui savait à peine pouvoir parler le français. Je dirais, humainement parlant, tout était commencé de travers. Et c'est pour ça exactement ce qui s'est passé. Dieu a utilisé Sainte-Jeanne d'Arc, le sacrifice de Sainte-Jeanne d'Arc, le sacrifice de sa vie, pour faire couronner à Reims le dauphin Charles VII et pour bouter les Anglais hors de France. N'oublions pas que nous sommes en 1401, 90 ans avant la révolte de Luther. Et Sainte-Jeanne d'Arc a véritablement été suscitée par Dieu pour protéger la France du protestantisme. Si Sainte-Jeanne d'Arc n'avait pas été suscitée par le bon Dieu, nous serions tous protestants aujourd'hui, à cause de l'apostasie du roi Henri VIII et le passage à l'anglicanisme de toute l'Angleterre. Vous savez que Sainte-Jeanne d'Arc a mis beaucoup, beaucoup de temps à être canonisée. Elle a été canonisée en 1920. Je pense que c'est une des saintes qui a dû attendre le plus longtemps. 1431-1920. Pourquoi a-t-elle dû attendre si longtemps? Mais évidemment, il y a quand même pas mal de problèmes à régler. D'abord, elle avait été condamnée par des hommes d'église qui faisaient un peu désordre. Elle était condamnée par l'évêque de Beauvais, l'infâme Monseigneur Cochon. Et ensuite, c'était quand même extrêmement délicat dans l'église à cause de toutes les idées modernes qui commençaient déjà à circuler autour du début du XXe siècle. L'histoire de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est quand même et avant tout l'intervention directe du bon Dieu dans les affaires politiques françaises. Et ça non plus, ça passe pas. Et c'est pour ça qu'elle a dû attendre tellement longtemps. Je crois qu'il y a un deuxième saint qui a dû attendre tellement longtemps pour une raison que j'ignore, c'est saint Albert le Grand, qui a dû même attendre plus longtemps, puisque lui, il était du XIIIe siècle, au temps de saint Thomas d'Aquin, c'était le directeur de l'université, de supérieur de l'université de la Sorbonne, qui a dû attendre aussi jusqu'au milieu du XXe siècle pour être canonisé. Et essayons de voir un petit peu, il y a beaucoup de choses encore une fois à dire, Seigneur-là, qu'on est obligé de choisir certaines choses, essayons de voir comment le bon Dieu s'y est pris. Encore une fois, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Donc il a pris des solutions surnaturelles. Il n'a pas pris Sainte Jeanne d'Arc, il n'a pas pris cette petite jeune fille, cette petite bergère de Don Rémy, il a passé directement à la tête de l'armée française. Non, pas tout de suite. Il a d'abord voulu, ça c'est très important à comprendre, il a d'abord voulu lui donner une vie intérieure. Cette jeune fille ne savait pas méditer, mais elle connaissait son catéchisme qu'elle avait appris, en famille surtout. Et le bon Dieu, pendant plusieurs années, va la former, lui apprenant à devenir une âme de raison. Et c'est seulement lorsqu'elle fut devenue une âme de raison que le Seigneur va lui demander d'aller à Vaucouleurs, et puis ensuite jusqu'à Orléans pour goûter les Anglais hors de la ville. Il a d'abord voulu qu'elle apprenne à prier intérieurement. Pas simplement des prières vocales, mais des prières mentales. Elle expliquait elle-même à ses juges après qu'elle a reçu donc la visite de ce qu'elle appelait ses voix, hein, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, Saint Michel. Et ses voix, pendant des années, lui ont appris à prier. Elle filait la quenouille au milieu des champs, elle gardait ses brebis, et ses voix étaient là avec elle pour la former à la vie intérieure. Et c'est simplement, seulement lorsqu'elle a su prier, faire oraison tous les jours, qu'à ce moment-là, le bon Dieu venait la chercher pour qu'elle puisse remplir sa grande mission. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Et si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre la vie de Saint-Jean. Et une deuxième chose qu'il faut comprendre à la vie de Saint-Jean, quand je prêche sur Saint-Jean, je dis toujours les mêmes choses parce que ces points sont tellement importants. Qu'est-ce qu'a fait Saint-Jean en arrivant? Elle arrive dans une pagaille complète pour l'armée française. Les Anglais étaient dans Orléans depuis maintenant pratiquement un an. L'armée française était en débandade complète, incapable de bouger les Anglais. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je ne sais pas ce que vous auriez fait, moi je crois que ce que j'aurais fait, si on m'avait demandé de faire une chose de ce genre, je serais commencé par aller vérifier un peu l'armement, les munitions, quelles étaient les armes offensives et défensives qui étaient à disposition des Français. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce n'est même pas occupé. Et même pas aller vérifier les armements. Par contre, elle est allée vérifier d'autres armements, ceux auxquels on ne pense pas, et d'aller vérifier les armements spirituels. Elle a réuni, comme vous le savez très bien, c'est une chose très connue dans la ville de Saint-Jean d'Arc. Elle a réuni les officiers de l'armée. Elle leur a dit, j'exige d'abord trois choses. Premièrement, la confession pour tous les soldats. Deuxièmement, la communion pour tous les soldats. Troisièmement, que toutes les filles de mauvaise vie qui sont dans l'armée actuellement, qui sont dans le camp ici, sortent et soient chassées du camp. C'est tout. Elle a obtenu ça. Et comme elle voulait vraiment faire comprendre qu'elle, ce n'était pas des mots en l'air, son historien dit qu'il y avait une de ces ribaudes, comme on les appelait à l'époque, une fille de mauvaise vie qui était dans le camp, qui ne voulait pas partir assez vite. Avec son épée, elle a frappé le dos de la ribaude avec le plat de son épée pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle parte rapidement. Elle a fait tellement fort qu'elle a cassé son épée. Donc voilà ce qu'a fait Saint-Jean d'Arc. Saint-Jean d'Arc a d'abord fait ça, c'est-à-dire d'abord mis les soldats en état de grâce. Pourquoi c'est tellement important? Parce que, mes bien chers frères, nous sommes encore une fois dans une situation parfaitement similaire. Nous avons devant nous une espèce de rouleau compresseur qui est en train de tout écraser. Imaginez un énorme rouleau compresseur qui pèse des tonnes et des tonnes et qui avance lentement en broyant tout ce qui se passe, tout ce qui est sur son passage. Et en face, qu'est-ce qu'on imagine? Une petite souris grande comme ça qui essaie d'arrêter le rouleau compresseur. En gros, c'est ça. C'est la situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? Courir le plus vite possible pour éviter le rouleau compresseur? Pas du tout. Il faut attaquer le rouleau compresseur. Et parce que ce rouleau compresseur, qu'on appelle la révolution, est quelque chose de surnaturel, il faut des moyens surnaturels. On ne lutte pas contre quelque chose de surnaturel avec des moyens naturels. Vous avez devant vous des chars, vous attaquez ces chars, il faut prendre des moyens proportionnés. Vous n'allez pas attaquer un char avec une sarbacane ou un bâton ou des pierres, d'accord? Vous allez prendre des moyens proportionnés. Là, c'est la même chose. Nous avons devant nous à lutter contre la révolution. Qu'est-ce que c'est que la révolution? Haine formelle de tout ordre dans lequel Dieu n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Dans lequel l'homme, pardon, n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. C'est la haine formelle de Dieu. Pourquoi? Parce que la cause finale de la révolution, c'est la destruction des âmes. La cause efficiente de la révolution, c'est le démon. Il va utiliser des instruments, mais c'est le démon qui mène. Le démon mène la révolution pour obtenir le plus grand nombre d'âmes qui tombent en enfer. On a donc affaire en face de nous à des choses surnaturelles. On ne se bat pas contre la chair et le sang, nous dit Saint Paul. On se bat contre les anges des ténèbres. Donc on se bat contre quelque chose de surnaturel. On se bat contre le démon. On ne se bat pas, encore une fois, contre le démon avec des moyens. Les moyens naturels n'ont aucun effet sur le démon, parce qu'en face de nous, nous avons un ange déchu, mais un ange quand même. Un ange qui est bien plus intelligent que nous, et si nous cherchons à lutter contre le démon avec des moyens naturels qui sortent de notre propre poche, nous allons droit dans le mur. Le seul moyen de lutter contre cette révolution surnaturelle, c'est d'utiliser des moyens surnaturels. La seule chose que craint le démon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le reste, le démon n'a aucune peur. Les mondes ne craignent qu'une seule chose, notre Seigneur Jésus-Christ présent dans les âmes. Si notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans les âmes, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même, présent dans l'âme, sera celui qui va donner à l'âme qui reçoit notre Seigneur Jésus-Christ, à l'âme qui contient notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu va donner une force incroyable, capable de tout transformer. Et de cette force-là, le démon a une peur bleue. Parce qu'il sait que là, il ne se bat plus contre les hommes, il ne se bat plus contre des choses naturelles, il se bat contre des choses surnaturelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Sainte Jeanne d'Arc. Avec Sainte Jeanne d'Arc, donc, quand elle a obtenu, on dit que c'est le plus grand miracle que Sainte Jeanne d'Arc ait jamais commis. Et c'est vrai, parce qu'elle a obtenu, après avoir obtenu au départ de toutes les mauvaises filles du camp, avoir obtenu la confession, la communion de tous les soldats, à ce moment-là, elle a remporté la victoire. Et que pour bien faire comprendre, là encore, il y a un point très important dans l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc. Après quelques victoires, Sainte Jeanne d'Arc, qui devait être un instrument, pour bien faire comprendre qu'elle n'était qu'un instrument, que c'est Dieu qui sauve, Sainte Jeanne d'Arc a été trahie. Elle a été trahie par, vendue aux Anglais par Jean Luxembourg. Et finalement, brûlée vive le 30 mai 1431. Encore une fois, humainement parlant, re-catastrophe. Tout est fichu, tout est perdu, peu rien à faire. Et à ce moment-là, sans aucune raison militaire, aucune, les Anglais avaient la victoire. Les Anglais se sont levés, se sont frappés la tête dans leur main, nous avons brûlé une sainte. Ils sont partis. Ils sont partis, ils ont procuré leur bateau, sont partis chez eux en Angleterre. La France était sauvée. Vous voyez, c'est exactement encore une fois notre histoire. Et souvent, les jeunes qui viennent me voir aux retraites, nous avons, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, énormément de jeunes qui viennent aux retraites, et j'en suis ravi, croyez-moi. Beaucoup de ces jeunes qui viennent aux retraites sont des gens qui n'ont pas la foi, qui ne la pratiquent plus depuis très longtemps, qui ne l'ont jamais eu, qui l'ont perdu s'ils l'avaient au début. Eh bien, ces jeunes, beaucoup de ces jeunes qui ont moins compris qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et ils viennent. Ils n'ont pas tout compris encore parce qu'ils viennent de familles non catholiques en général et ils me disent dans mon bureau, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de faire ressusciter notre pays qui est tombé en pourriture avancée? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et j'explique ces choses-là. J'explique que cette pourriture avancée, c'est une pourriture spirituelle. C'est le maréchal Pétain qui avait compris ça. Il n'a pas tout compris, mais il a au moins compris ça. Il avait dit... La France est malade dans son âme. La France est malade dans son âme. C'est exactement ça. La France, le pays de France est malade dans son âme. Pourquoi? Parce que les Français ont eu un tas de péchés mortels jusqu'au cou. Voilà le problème. Et donc ce ne sont pas encore une fois avec des moyens naturels que nous obtiendrons quoi que ce soit, ce sont des moyens surnaturels. Et j'explique à ces jeunes, la première chose dont nous avons besoin d'une élite. D'une élite de soldats chrétiens, de soldats catholiques, qui vivent en état de grâce, qui vivent de leur foi, qui vivent des sacrements, qui communient régulièrement, qui se confessent régulièrement pour être de plus en plus forts, pour lutter contre le démon, c'est de ça dont nous avons besoin. Et c'est comme ça que se sont faites toutes les contre-révolutions dans le monde entier. Chaque fois, nous avons des vraies étapes contre la révolution. Nous avons ici, tout proche d'ici, la guerre de Vendée, c'était ça. La guerre de Vendée, c'est quoi? C'est une contre-révolution, c'est rien d'autre. La contre-révolution vendéenne a été, je dirais, humainement parlant, aussi un échec. Pas oublier ça, la guerre de Vendée s'est terminée par, malheureusement, par l'extinction pratiquement totale de l'armée vendéenne. Mais cette extinction totale a sauvé la France catholique. Et c'est grâce à la guerre de Vendée que justement une réaction a pu se faire, sous l'impulsion de la prédication surtout de Saint-Louis-Marie-Guillaume de Montfort, qui auparavant préparait le terrain. Au Mexique, avec la guerre des Cristos, c'est pareil. Quelqu'un avait préparé le terrain avant. Quand en 1926, les évêques félons avaient déjà abandonné le terrain en disant qu'il n'y aura plus de messe, plus de sacrement, plus rien du tout, parce qu'ils ne vont pas faire de provocation avec la République. Comment se fait-il que tous les jeunes qui sont levés comme un seul homme pour devenir les chefs de la contre-révolution de la guerre de Cristeros, comment se fait-il que tous ces hommes venaient tous comme par hasard d'une organisation qui s'appelait la CJM, la Science catholique de la jeunesse mexicaine, qui avait été formée par le père Vergouin, un prêtre français qui avait été là-bas à l'époque, autour des années 1910, qui avait formé cette contre-révolution pour qu'elle commence justement à sortir de terre et préparer le terrain. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on voit avec la guerre des Cristeros, humainement parlant, un échec complet. Puisque trompé par les révolutionnaires, trompé par ses conseillers, le pape Pie XI, malheureusement, se fait complètement rouler et a demandé au chef Cristeros d'abandonner le combat pour essayer de retrouver la paix. C'était l'assassinat de tous les chefs Cristeros. N'oublions pas jamais ces choses-là, mes bien chers frères, le sang des martyrs et le salut de la chrétienté. Le salut de la chrétienté viendra par le sang des martyrs. Nous sommes dans la même situation. Donc de quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour essayer de faire quelque chose, d'enrayer ce mastodonte qui cherche à tout écraser? De quoi avons-nous besoin? D'âmes en état de grâce. C'est pour ça que tout, on le voit très bien aujourd'hui, c'est visible, mais c'est clair. Comme le soleil, on peut dire que tous les contre-révolutionnaires qui n'ont pas compris ces choses-là, qui n'ont pas compris que la première des choses à faire pour un contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce, tous ces contre-révolutionnaires sont des faux contre-révolutionnaires. Et toutes les contre-révolutions qui n'ont pas compris qu'il fallait d'abord mettre notre Seigneur Jésus-Christ avec nous dans les soldats, l'âme des soldats, sont des fausses contre-révolutions. Et ces fausses contre-révolutions sont vouées à l'échec le plus total, et c'est exactement ce qu'on voit actuellement. C'est ce que disait Saint-Pie X, donnez-moi une armée qui prie le rosaire, avec cette armée nous pourrons bouger le monde, disait-il. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'âmes en état de grâce, d'enfants qui vivent en état de grâce, de jeunes qui sont convaincus de ces choses-là, qui prennent leur temps d'étudier leur catéchisme, qui prennent leur temps de venir faire leur traite une fois par an pour avoir cette force divine qui peut tout transformer, qui prennent leur temps de se confesser régulièrement pour vivre en état de grâce avec les grâces du bon Dieu. C'est de ça dont nous avons besoin. Imaginez un chef naturel qui se présente à la bataille contre le démon et qui a une âme chargée de péché. Qu'est-ce que va penser le démon? Le démon, il voit cette âme, c'est un ange, il arrive à voir certaines choses. Il voit quelqu'un qui s'approche contre lui, qui est armé contre lui, qui est dans l'état de péché mortel. Mais le démon est pillé en deux de rire en se disant mais il est complètement fou. Il n'est même pas armé. Par contre, quand nous avons des chrétiens d'état de grâce, à ce moment-là, c'est l'histoire de David et Goliath. David, un jeune homme, on ne sait pas exactement quel âge il avait, mais enfin vraiment 15-16 ans, quelque chose comme ça. Il n'a aucune armure, okay, il n'a rien du tout, mais il est venu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Dieu, pour vaincre les Philistins et vaincre le représentant des Philistins, le démon, le soldat Goliath. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait une fronde et 5 petites pierres, c'est tout. Tout ce qu'il avait. Il se présente devant cet énorme géant qui était armé jusqu'aux dents, et se présente avec une fronde et 5 pierres. À tel point que le démon, le dit l'Écriture sainte, le Goliath a éclaté de rire quand il a vu celui qu'on avait envoyé. Goliath lui dit, je viens au nom du Dieu Tout-Puissant. Il a pris sa fronde, il a fait tourner la fronde, il a lancé sa pierre. La pierre est allée percer le front de Goliath. Il est tombé vraiment. Et les pères de l'Église font remarquer, la pierre a frappé le front parce que ce front n'était pas armé de la croix du Christ. Voilà ce que disent les pères. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait de nos âmes un soldat de Dieu, qu'est-ce que fait l'évêque? L'évêque va faire un signe de croix précisément sur le front, 3 fois de suite avec l'huile sainte, avec l'huile de Saint-Crème, pour bien montrer que cette intelligence appartient désormais au grand Dieu. Alors, le front de Goliath n'était pas protégé justement par la croix du sacrifice, par la croix de la messe. Voilà ce qu'il nous faut demander, mes chers frères. Il nous faut demander ces convictions dont nous avons impérativement besoin. À ces convictions, nous avons impérativement besoin pour pouvoir envisager la victoire. Et ce n'est pas avec des fausses contre-révolutions, bien cher frère, qu'on vaincra quoi que ce soit. N'oublions jamais ça. D'abord l'état de grâce, d'abord l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions justement rattraper tous ces dégâts. Demandons la force de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie est comme une armée, nous dit l'Écriture sainte, le pied sur le démon, rangé comme une armée en bataille, forte comme une armée rangée en bataille. C'est ça, la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, c'est celle qui était la chef de l'armée, attention. La chef de l'armée catholique, c'est l'armée de la Sainte Vierge Marie. Donc demandons à la Sainte Vierge Marie d'ouvrir nos intelligences pour que nous puissions comprendre toutes ces choses. Pour que nous puissions justement avoir en nous, encore une fois, ce feu sacré de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, feu capable de tout transformer. Imaginez, vous voulez mettre le feu à une forêt, au début c'est une toute petite flamme de rien du tout, on fait craquer une allumette au début pour mettre le feu au broussailles, au début c'est tout petit, et puis d'un seul coup le feu va se répandre partout, et va finalement détruire complètement toute la forêt. Si nous avons en nous, mes bien chers frères, encore une fois, ce feu de l'amour divin, et bien à ce moment-là, ce feu sera capable de brûler tous les ennemis et de libérer notre pays. Et commençons par la libération de notre âme. Il n'y a pas de libération du pays sans libération de notre âme. Et c'est ce que nous avons demandé à Notre-Dame au cours de ce mois de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.